Avec beaucoup de reconnaissance, ouvrons le Saint-Livre dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Quel bonheur d'ouvrir le Saint-Livre, c'est vrai pour vous? Eh oui, quel privilège. Quel privilège de pouvoir avoir la Bible dans notre langue. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dire la même chose. Luc 22, 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié, nié trois fois de me connaître. Et un dernier texte, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Jean 6. Verset 60. Et nous allons lire jusqu'au verset 69. Jean 6, 60 à 69. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point, et ceux et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le sein de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous voyons dans ce dernier texte que nous venons de lire? Quelque chose qui nous frappe quand même. Des disciples, des vrais disciples, ce n'est pas des chrétiens de nom, ce n'est pas des sympathisants, ce sont des disciples. Des disciples qui abandonnent le Seigneur Jésus. Ça commence, on le voit, ça commence par le murmure. Et souvent dans la parole de Dieu, on le voit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Ancien, que l'œuvre de Dieu a été bloquée par le fait que des personnes aient murmuré. Ils ont murmuré pensant que ce n'était pas grave, pensant murmurer contre Moïse par exemple, mais en vérité, quand on lit la fin, ce n'était pas contre Moïse qui murmurait, c'était contre Dieu. Le murmure, à nous, c'est pas important, tellement il y a des choses plus graves, tellement il y a des choses plus importantes. Donc ça fait que murmurer semble ne pas être un problème. Mais en vérité, c'est le départ d'un comportement rebelle, un comportement qui remet en question la parole. Parce qu'en fin de compte, on dit oui, murmurer, on ne va pas en faire tout un plat, quelqu'un qui murmure, oui. Mais quand le murmure fait que nous remettons en question la parole de Dieu, ça ne va pas aller. Parce qu'en fin de compte, nous nous mettons sans rendre compte contre Dieu. Quand nous remettons en question son amour par rapport à des situations que nous pouvons traverser, il y a des chrétiens qui ont tout le temps remis en question, oui, je ne sais pas, si Dieu m'aime, on en reparlera tout à l'heure. Enfin, en tous les cas, c'est la preuve, et je le dis avec beaucoup de peine et de vérité. Quelqu'un qui remet en question l'amour de Dieu, écoutez-moi bien, je suis catégorique dans ce que je dis. Quelqu'un qui remet en question l'amour de Dieu est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quand vous connaissez Dieu et que vous le connaissez de plus en plus, s'il y a une chose qui est certaine, vous ne pouvez pas remettre en question son amour. Rien que le dernier cantique nous a émus et on le connaît depuis 40 ans, pour ceux qui sont convertis depuis 40 ans, etc. Mes paroles sont esprit et vie. Et le cœur ouvert devrait déterminer cette soif de Dieu. Je ne parle pas des oreilles et des yeux, je parle d'un cœur ouvert. Les oreilles du cœur, ces oreilles qui ont cet esprit qui a besoin d'entendre la parole, qui a besoin d'une parole de Dieu. Plusieurs ce matin parmi nous ont peut-être besoin plus particulièrement de ce qu'ils vont entendre. Quelque chose de sérieux par rapport à leur position. Vous rendez compte, c'était quand même le Seigneur Jésus, le Maître, le Messie, le Dieu du ciel et de la terre qui était là. Et les disciples l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas compris. Ce qui explique que les temps devenant de plus en plus difficiles, beaucoup de gens abandonnent, ils abandonnent la foi, ils perdent la conscience. Vous savez, si vous abandonniez une mallette remplie de 3 millions d'euros, c'est que vous ne réaliseriez pas la somme que ça représente. Quand on abandonne Jésus, c'est qu'on n'a pas tout compris, franchement. Et je ne suis pas là, moi, pour juger, pour faire des comparaisons stupides. Quand on abandonne le Seigneur, c'est ou alors on préfère les ténèbres, parce qu'il faut être juste à tout. Est-ce que c'est écrit que les gens ont préféré les ténèbres à la lumière? Oui, il y a des gens qui aiment le péché. Jésus conclut la révélation que celui qui se souille, se souille. On voit bien, s'il y a des gens qui préfèrent la souillure et la saleté, ben c'est leur choix. Mais quand on abandonne Dieu en dehors de cette affaire, c'est qu'on ne le connaît pas. Ses disciples ont abandonné Jésus. Ils marchaient avec lui. Ils n'avaient pas pour pasteur Moïse ou l'apôtre Paul. Ils avaient pour pasteur le Seigneur Jésus lui-même. Et ils l'ont abandonné. Des disciples, c'est écrit comme ça. Aujourd'hui, on dirait des chrétiens, ou des pentecôtistes, ou des croyants des assemblées de Dieu, en fait des chrétiens d'église évangélique, des gens qui sont vraiment passés par une expérience et par la croix. Enfin, ils n'étaient pas passés par la croix, mais en fait, ils avaient compris. Mais justement, le message de la Sainte Cène ne leur convenait pas. Parce que la Sainte Cène, en vérité, nous parle de notre mort à nous-mêmes aussi. De notre mort à nous-mêmes. Alors Pierre, bien sûr, il réagit. Vous avez vu la réaction de Pierre, une réaction excellente. Les disciples des chrétiens, comme Pierre, abandonnent le Seigneur. Jésus, dans sa sagesse, teste tout le monde. Et vous? Il se tourne vers les douze. Et vous? C'est une question quand même qui paraît dure et sévère. Vous vous rendez compte, ça fait quand même... Et vous ? Alors, je me doute que la tonalité avec laquelle le Seigneur a posé cette question était pleine d'intelligence. Mais il n'empêche qu'il l'a posée. Et vous ? Pierre avait avancé avec le Seigneur. C'est ce que je voudrais que vous compreniez en introduction. Pierre avait avancé. C'était un homme qui avait un caractère à corriger. Mais c'était un homme en qui Dieu s'était révélé. Et il le dit d'ailleurs. Mais à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre connaît Jésus. On peut se permettre de les comparer aux autres disciples qui, aux yeux des hommes, étaient certainement les mêmes, mais ce n'est pas vrai. Il y avait dans le cœur de Pierre une révélation supérieure à ses disciples qui, eux, certainement, on le voit dans notre texte, suivaient Jésus par intérêt. Jésus le dit, ils me suivent pour le miracle des pains. Il y a des gens qui ne suivent Dieu que par intérêt. Il y a des gens qui, toute leur vie, ont demandé à Dieu, bénis-moi, je le caricature, bénis-moi, garde-moi, guéris-moi, bénis mes enfants, j'ai besoin d'un travail. Voilà. Il y a des gens, leur vie spirituelle s'est arrêtée à la recherche d'une bénédiction. Ils n'ont jamais cherché à ce que Dieu se révèle dans leur cœur. Ça explique la quantité grande, trop grande, de fils prodigues. Ça explique ce qu'on est en train de lire. Mais il y a des gens en qui Jésus s'est révélé. J'espère que c'est le cas dans nos vies, que Jésus se révèle de plus en plus. Pas par des expériences, même si certaines expériences vont vous révéler le caractère du Seigneur. Quelqu'un qui est malade, qui va mourir. Tout à l'heure, je parlais avec Madame Espèce de son fils, quand le docteur lui a dit qu'il va mourir, donc il faut le débrancher. Eh bien, son fils a été guéri. Pourquoi ? Parce que Dieu guérit. Et là, vous découvrez un des aspects du caractère du Seigneur par une expérience. Mais l'expérience ne suffit pas. La preuve. Pierre a beaucoup avancé avec le Seigneur. Vous vous rappelez la première fois que Jésus s'est révélé à lui ? Vous vous rappelez ? Au bord du lac de Génézaret, Pierre était en train de pêcher. Ils avaient pêché toute la nuit avec son équipe. C'était un patron. C'était quelqu'un qui avait de l'autorité, etc. Et puis, comme par hasard, Jésus s'est approché et lui a demandé sa barque. Il a demandé sa barque. Pourquoi ? Eh bien, pour aller pêcher. Pierre avait pêché toute la nuit. En fait, c'était compliqué cette affaire. Et puis, à la fin de la nuit, Jésus avait parlé à toute une foule. C'est ce qui représente un peu ce qui se passe dans nos églises. Quand il y a du monde, c'est facile à comprendre. La parole de Dieu peut s'adresser à tout un auditoire. Et puis, tout d'un coup, Jésus dit à Pierre, « Pierre, voilà, tu fais ça et tu vas pêcher là-bas et tu jettes le filet du côté droit de la barque. » Pierre ne le connaît pas, il a entendu prêcher, ce n'est pas une prédication qui fait tout. Et il lui dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien faire. Il connaissait son travail, il savait très bien qu'il n'y avait pas de poisson. C'est facile à comprendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc il obéit. Vous voyez, il n'est pas encore converti, mais il obéit. C'est peut-être, ça c'est un signe d'intelligence, quand même si on n'est pas encore converti, on a compris que ça vaut la peine d'obéir au Seigneur. Et il le fait, et vous savez la suite, et quand Pierre remplit ce filet plein de poissons qu'il n'arrive pas à mettre dans la barque, ils ont besoin de la collaboration des autres, à la place de dire « Oh, c'est merveilleux, je vais pouvoir payer mes employés, je vais pouvoir continuer mon business », qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe à genoux. Vous vous rappelez cette histoire ? Il tombe à genoux et il dit « Retire-toi de moi ». Je suis un homme pêcheur. Pierre avait compris que si Jésus était capable de voir un banc de poissons à une centaine de mètres à tel endroit, il avait de suite compris par la présence de Jésus qu'il était capable de voir dans le fond de son cœur. Et le travail a commencé. Et Dieu a commencé à se révéler dans la vie de l'apôtre Pierre. C'est une histoire extraordinaire parce que quand même, on sait, bien sûr que nous on est pénalisés par le fait que l'on sait ce qu'est devenu l'apôtre Pierre. Mais imaginons que nous ne sachions pas du tout ce qu'est devenu l'apôtre Pierre. Plus tard, les années qui ont suivi, ça commence par une histoire extraordinaire. La deuxième fois, c'est sur un sondage. Vous savez, le Seigneur, il avait des fois des drôles de questions. Il s'arrête, il aborde les disciples. D'abord les disciples. Qui dit-on que je suis ? Il parle aux disciples. Qui dit-on que je suis ? Qu'est-ce que les autres pensent de moi ? C'est facile. Qu'est-ce que les autres pensent de Jésus ? En France, qu'est-ce que les gens pensent de Jésus ? Bon, c'est même pas la peine d'en parler. Mais qu'est-ce que les gens pensent de Jésus? Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es le prophète, les autres disent que tu es Élie, etc. Et puis, le Seigneur, bien sûr, fait ce qu'il sait faire. Et vous? Et vous qui dites-vous que je suis? Parce que c'est facile de dire oui, en France, les gens pensent de Jésus. Mais toi, ce matin, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Et là, Pierre, de nouveau, ce frère qui avait quand même de la facilité à s'exprimer, etc., par rapport aux autres, qui étaient beaucoup plus effacés, ça c'est les caractères et les personnalités. Et Pierre lui dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a compris que Jésus était Dieu incarné. C'est extraordinaire. Et vous savez ce que Jésus lui dit? Pierre, tu es heureux, Simon Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, une deuxième expérience qui devait certainement avoir été appuyée par la première, Pierre avait eu besoin de chercher Dieu. Il ne cherchait pas avoir davantage de poissons, il cherchait Dieu. La preuve, c'est que Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang dont tu l'as pas appris par le pasteur du coin ou par le comment dirais-je, à la synagogue. Tu l'as appris, peut-être dans ta chambre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça devrait nous encourager à comprendre que nous devons recevoir du Seigneur. Notre frère M. Fabio rappelait ce matin le texte, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur. Paul n'a pas rencontré physiquement Jésus de la même façon que les apôtres, il l'a rencontré d'une autre manière, mais il a plus reçu que les apôtres. Vous êtes d'accord? Il a reçu du Seigneur. Pierre a reçu, écoutez bien, c'est ma petite introduction. Il a reçu du Seigneur et ses révélations montrent qu'il doit y avoir une progression, une croissance dans notre vie. Là, au début, on le voit dans les propos de Pierre. C'est intéressant d'étudier la vie des apôtres. D'ailleurs, j'encourage tous les frères à le faire et les sœurs qui y sont intéressés, bien sûr. Mais, malgré les révélations de l'apôtre Pierre, qui sont plus belles les unes que les autres, il y avait certaines choses dans le cœur de Pierre qui avait encore besoin d'être changé. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui connaissez la Bible? Il avait une forte personnalité, ça ce n'est pas un péché d'avoir une forte personnalité, mais il avait besoin d'être modifié dans son caractère. Les personnalités, c'est bien, après tout, chacun a notre personnalité, et je crois que lorsqu'on se convertit, notre personnalité s'épanouit. Si elle ne s'épanouit, c'est ou on est dans une secte, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors on est dirigé par des gens légalistes qui nous culpabilisent, ce que ça peut arriver dans des églises. Mais le Seigneur, il sait, lui, il sait où tu en es. Et si vous le savez, quand je tutoie, ce n'est pas du tout du mépris, c'est pour que nous comprenions bien que même si Dieu s'adresse à tout un auditoire, Dieu s'intéresse à chacun de nous en particulier. Donc, la volonté de Dieu, de la même manière que la volonté de Dieu pour Pierre, c'était que son caractère soit changé, vous comprenez bien que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous fassions des progrès également. Est-ce que vous avez la conviction que vous faites des progrès? Est-ce que réellement... Mais ce n'est pas une question piège, c'est une question sérieuse. Parce que nous, le but peut-être de notre présence ici, c'est la communion fraternelle. Est-ce que c'est bien de venir que pour la communion fraternelle? Est-ce qu'on pourrait critiquer quelqu'un qui est seul toute la semaine, qui est content de venir? Vous verrez qu'il passe à côté de quelque chose, d'accord? Quelqu'un pour venir parce qu'il a besoin de prendre le PEV, c'est archi important. Pour moi, la Sainte-Seine, c'est quelque chose de vital pour moi. Et quelqu'un pourrait ne venir, vous voyez, je caricature là aussi, mais que pour certains aspects, la communion fraternelle, peut-être pour la louange, il y a des églises, là, ça c'est sûr, il y a des gens qui vont que pour la louange. Il y a des gens qui viennent, par exemple ici, ça pourrait être défini ainsi, beaucoup de gens viennent ici pour la parole. Comprenez? Mais en vérité, même si tout ça on l'explique, on le conjugue, on l'amorce, etc., une chose est certaine, ce que Jésus veut, c'est que vous et moi, nous fassions des progrès. Vous êtes d'accord? Ça c'est imparable. Voilà. Alors nous sommes peut-être dans une démarche qui est bonne, même si elle n'est pas toujours équilibrée, mais le Seigneur, lui, il est dans une vision de transformation. Pierre allait devenir quand même l'apôtre Pierre. Et vous, peut-être que vous, ça ne vous préoccupe pas, mais Dieu, lui, ça l'intéresse que vous deveniez l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, le couple. Le couple, tenez-vous bien. Le couple que Dieu veut que vous deveniez. Parce que je peux vous dire que moi, s'il n'y avait pas eu mon épouse, il y a longtemps, et je le dis, j'en ai honte, il y a longtemps que je ne serais plus dans le ministère. Longtemps. Très longtemps. Et je dis ça pour expliquer que voilà, mais Dieu, il voit ce qu'il veut faire avec vous. Il voit ce qu'il veut faire avec toi. Nous ne le voyons pas. Donc, l'apôtre Pierre ne le voyait pas. Dieu nous exhorte, quand Paul dit aux Corinthiens, « Je vous exhorte à prendre garde à la manière dont vous bâtissez sur le fondement qui a été établi. » Vous connaissez ce texte? Donc, c'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est devant Dieu. Il y a une joie que l'on a exprimée par le premier cantique. « Heureux, heureux est le peuple du Seigneur. » Et c'est vrai, nous sommes heureux. Mais en même temps, il y a aussi cette intelligence qui dit, « Voilà, Seigneur, tu n'en as pas fini avec moi, même si nous pensons que Jésus va bientôt revenir. » Vous pensez que Jésus va bientôt revenir? Oui, moi je pense que Jésus est à la porte, vraiment. Très, très près. Mais il n'empêche que même si Jésus est très, très près, il veut poursuivre son œuvre de progression dans chacune de notre vie. Alors, je ne sais pas quelle est votre volonté, votre personnalité. Je ne sais pas quel est le trait de caractère qui paralyse le service. Parce que même si on a un caractère qui, aux yeux des hommes, paraît utile, laissez-moi vous dire que le trait de caractère de l'apôtre de Pierre qui était meneur, c'est un mot que l'on emploie beaucoup, pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si c'est fait par la force de l'homme, ça ne sert à rien dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur avait décidé de s'occuper du caractère de Pierre de la même manière qu'il a décidé de s'occuper du nôtre. C'est bien ou c'est pas bien? Pierre avait confiance en lui-même. On en parle beaucoup de ça. La confiance en soi. Il y a beaucoup de séminaires dans le monde, même si vous écoutez parfois les informations, on dit voilà, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. On l'entend souvent, ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que du mauvais dedans, mais je peux vous dire qu'il peut y avoir que du mauvais. Que du mauvais. Pierre avait confiance en lui, en lui-même, en ses propres forces. Si les autres te renient, c'est normal. De toute façon, dès qu'on commence à se comparer aux autres, on est en mauvaise posture. Il ne faut jamais se comparer à quelqu'un. Soyez vous-même. Je vous assure, c'est le début de la chute quand on commence à se comparer à quelqu'un. Soyez vous-même. Pierre avait confiance en lui et seul le Seigneur savait ce qu'il avait besoin de traverser, comment être transformé, cette suffisance. Vous voyez, quand il le dit, mais non. Même quand Jésus lui dit, mais tous vous m'abandonnerez. Et je dis, mais non, pas moi. Et plus, vous voyez, quand Dieu dit quelque chose, mais ça vous montre combien on peut être aveuglé sur notre caractère. Que Dieu nous garde. Là, il y a des comportements qui provoquent des souffrances. On l'a lu, on en a parlé dimanche dernier. Il y a des comportements qui, vous voyez, comme par exemple que personne ne souffre de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Il y a des souffrances, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. C'est pas la peine d'en ajouter. En s'ingérant dans les affaires des autres. Une affaire. Mais enfin, cette suffisance, certains traits de caractère, s'ils ne sont pas éliminés, ils vont finir par nous nuire. C'est pour ça que beaucoup de gens ont rétrogradé. Vous connaissez la suite. On va en parler, mais au fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec vous? Est-ce que vous êtes capable de dire, tiens, le Seigneur est en train de s'occuper de ça dans ma vie? Ou est-ce que vous avez mis le frein à main, le bandeau, les boules caisses? Et que juste vous venez avec votre canne blanche, juste pour venir. Est-ce que vous pouvez dire, tiens, oui, le Seigneur est en train de s'occuper de cet aspect dans ma vie. Il y a de la jalousie, par exemple. Est-ce que ça peut arriver de traverser un moment où on peut être jaloux? Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Est-ce que ça peut arriver d'avoir envié quelqu'un? d'avoir convoité ce que quelqu'un avait. Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr, ça peut arriver. Ne soyons pas aveugles. Et Dieu sait s'occuper. Peut-être un jour, ah tiens, cette personne, elle est avare, je vais m'occuper de ça. Ça peut prendre une réunion, ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, un an, 30 ans. Est-ce que Dieu peut prendre 30 ans pour régler le problème de quelqu'un? Oui, je le sais. Est-ce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Est-ce que ce matin, parce que Dieu, vous savez, vous me regardez, je sais que souvent, quand je prêche, les gens écoutent ma prédication, mais je voudrais que vous sachiez que le Seigneur est beaucoup plus intéressé peut-être par votre réaction, votre cœur, que mes paroles. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu regarde à votre cœur. Donc dans Luc 22, on peut y revenir si vous voulez bien. Dans Luc 22, il y a cette affaire, la suffisance, le caractère, j'ai presque envie de parler d'orgueil. Est-ce que c'est de l'orgueil? C'est difficile. Est-ce qu'on peut parler de l'orgueil de Pierre? Voyez? Est-ce qu'on peut parler de l'orgueil de Pierre? Je ne sais pas. J'ose pas trop parler d'orgueil parce que je sais une chose, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça me gêne de parler de l'orgueil de Pierre. Je ne pense pas que c'est de l'orgueil, c'est plus de la suffisance et un trait de caractère. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça veut dire quoi? Que Dieu laissait la suffisance. Alors là, moi j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Mais la suffisance, les traits de caractère peuvent permettre aussi à Satan de s'infiltrer. Comme si le soleil se couche, si on se couche sur la colère, ne donnez pas accès au diable. Donc, ce texte, moi j'ai lu plein de commentaires, laisse supposer aussi que Pierre avait ouvert la porte à Satan, avait cette affaire de caractère. Et mais que Dieu, dans sa souveraineté, c'est ce qu'il fait, comme il avait permis, on le voit dans la parole de Dieu, il a souvent permis de l'adversité, beaucoup d'adversité, pour changer les gens. Mais quand quelque chose doit changer, Dieu va l'autoriser. Dieu aurait pu dire tout simplement, Pierre, tu sais Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais je vais prier et ça n'arrivera pas. Est-ce que ça aurait pu être comme ça? Est-ce que Dieu aurait pu l'empêcher? Ben bien sûr, je ne sais pas si vous réalisez. Jésus aurait pu dire, voilà, je te le dis, je sais que l'ennemi va chercher à te détruire, parce que cribler, c'est un mot qui signifie passer au tamis. Au sens figuré, ça veut dire mettre à l'épreuve sa foi par l'agitation intérieure. Voilà exactement la définition du mot crible. Je vais t'agiter, je vais éprouver ta foi en t'agitant intérieurement. Parce que des combats intérieurs, je pense que j'ai pas besoin de vous enseigner là-dessus, est-ce qu'il y en a des combats intérieurs? Donc voilà, je vais t'agiter, l'ennemi va te secouer, te cribler, vous savez comment c'est ces petits tamis-là, où on filtre le blé de la balle. Je vais te cribler, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Cette confiance, cette confiance en soi, cette suffisance, ton caractère, il faut que ça change. Toi qui te crois meilleur que les autres, tout ça, il faut que ça change. Et là, en même temps, Dieu nous enseigne ces choses. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, on parle d'un homme qui a été travaillé par Dieu, brisé, restauré, parce que c'est une chose d'être brisé, soyons sérieux. C'est une chose que le Seigneur permette le brisement, c'est encore une autre de le laisser nous restaurer. Parce qu'il y a des gens qui ont été brisés par des trucs de fous, un divorce, des épreuves terribles, mais qui ne se sont pas laissés restaurer. Et Pierre, quand même si on voit cet esprit du brisement, on n'aura pas le temps, je le sais, mais il y a cet esprit de le Seigneur a su le restaurer, d'accord? Donc, oui, Dieu peut nous cribler, nous passer au crible, nous agiter. Est-ce que vous acceptez? J'ai lu dans un commentaire, le mot crible signifie mettre à l'épreuve la foi par l'agitation intérieure jusqu'au point de chute. Le mot criblé, c'est le mot hébreu, bien sûr, grec. Je ne savais pas s'il me fallait le dire. Jusqu'au point de chute, c'est-à-dire que le Seigneur peut nous éprouver, jusqu'à la limite. Il sait. Ça ne sera pas la même chose pour l'un que pour l'autre. Dieu connaît la pression que l'on peut subir. Un enfant peut porter un petit poids de 5 kilos, un homme peut porter un poids de 50 kilos, une femme peut porter un poids de combien? 3 kilos? Non, un peu plus. Mais chacun, non mais vous êtes d'accord, non, je vois que vous me suivez. On n'a pas tous la même force, donc c'est pareil pour la pression, on ne peut pas tous porter la même chose. Je vois que vous me suivez. En tous les cas, l'ennemi, voyant une faille, écoutez bien, parce que quand même, on peut faire des progrès de telle sorte que c'est écrit quand même que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il y a quand même des vainqueurs qui vivent ces choses. D'accord ? Mais pour en arriver là, il y a tout un processus. Et comme je l'ai dit, et j'étais très sérieux quand je disais ça pour prendre un jour, une heure, un mois, une semaine, un an, 30 ans, je suis sérieux. Ce que Dieu veut nous apprendre, il prendra le temps, mais il le fera. Il n'y a pas de détour, on ne saute pas des classes. Vous voyez, il faut passer par chaque classe. En tous les cas, il y avait une attaque pour le détruire. Le diable, c'est son slogan, Jésus l'a dit, le voleur, il ne vient que pour dévorer, égorger, détruire. C'est son slogan, voilà. Le diable, il ne sait pas faire autre chose, mais par contre, il sait le faire. Il veut détruire l'œuvre de Dieu, et laissez-moi vous dire qu'dans bien des endroits, il a réussi parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on n'a pas été sérieux. Vous voyez, imaginez ce matin qu'on ait chanté que des chants sur la joie du salut, heureux, heureux. Est-ce que c'était bien qu'on commence avec un chant sur le salut? Il fait des progrès quand même. Des chants sur le salut. Mais s'il n'y avait que des chants sur la joie, des chants sur la joie, des chants sur la... Est-ce qu'on serait dans la réalité? Non, on a chanté que des chants qui présente la vie chrétienne. La joie du salut, je pense qu'on ne peut pas ne pas exprimer sa joie. Si vous avez la joie du salut, on a besoin de l'exprimer. Mais après, il y a aussi tel que je suis. Tel que je suis. Ce n'est pas incompatible. Jésus n'a pas empêché cette épreuve. Et je voudrais, vous savez, moi, l'épreuve, c'est un sujet parce que j'en ai traversé, parce que j'ai failli décrocher pour plein de trucs. L'épreuve, c'est incroyable, tous les textes qui enseignent sur l'épreuve. L'autre jour, je vous ai parlé du psaume 88, je ne sais pas si vous l'avez lu en entier, mais vous avez vu comment ce psaume se termine, il n'y a aucune solution, il y a des situations. Tu te dis, il n'y a même pas un truc d'espoir dans ce psaume. Mais oui, il y a des épreuves qui durent. Et Jésus produit des épreuves, provoque des épreuves, il y a plein de textes, j'en avais préparé, mais on n'aura pas le temps. On le verra peut-être mardi ou dimanche prochain, la prochaine fois que j'aurai à prêcher, de toute façon sur ce sujet, parce que j'ai vraiment à cœur de prêcher sur l'adversité. Mais Jésus prie, il prie le Seigneur. Jésus lui a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il n'y a personne qui dit Amen. Mes frères, vous savez, quelle grâce de savoir que des gens prient pour vous. Moi, il y a des gens qui me disent, je prie pour vous tous les jours. Moi, ça me touche, mais vraiment, je pense que c'est la chose qui me touche le plus. Surtout qu'il y a des gens même que je n'ai jamais vus, qui m'appellent, Monsieur Gau, je ne vous connais pas, mais je prie pour vous tous les jours. C'est quelque chose qui me touche. Mais là, quand même. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais il a prié pour Pierre, d'accord. J'aimerais bien qu'il prie pour moi. Eh bien, si vous avez lu votre Bible, on va le lire ce texte, c'est dans Romains au chapitre 8. J'aimerais que vous réalisiez Romains 8, 34. Quand même, mes frères et sœurs, il y a des versets qui devraient nous toucher vraiment. Je sais que ça fait partie de la révélation et que la révélation, elle est progressive et qu'il faut faire des progrès dans cette révélation. Comme Pierre, même s'il y a des trucs à changer, des comportements de caractère à modifier. Mais quand même, c'est Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui, on va lire le verset 31. Il pose des questions, mais que dirons-nous à l'égard de ces choses? Mais qu'est-ce que je dis? Moi, j'aime quand j'entends quelqu'un qui dit, je ne sais pas comment te le dire, je n'ai pas les mots pour te... Voilà, c'est ça en fin de compte. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Vous voyez, quand on ne croit pas à l'amour de Dieu, c'est qu'on a besoin d'une grosse révélation, une nouvelle révélation. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On va le voir bientôt, ça. Quand vous comprendrez ce que c'est la justification, quand vous passerez devant lui, vous direz, ouais, c'était un petit peu plus grand que ce que je pensais. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Mes frères et sœurs, là on peut dire quand même merci. Parce que moi je peux oublier de prier pour toi, tu peux oublier de prier pour moi, etc. Même si on se soutient, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus dans le ciel prie pour toi. Vous le croyez? Mes frères et sœurs, c'est comme ça que la révélation elle grandit. C'est comme ça qu'on fait des progrès. C'est comme ça qu'on accepte également la souveraineté de Dieu par rapport aux épreuves qu'il va permettre, par rapport aux difficultés. Nous, on prie, bien sûr, garde-moi. Et il faut le faire, garde-moi du mal, délivre-moi du malin, etc. Mais n'oublions jamais une chose, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus prie pour toi. Il prie pour toi pour que ta foi ne défaille point. Jésus sait, mais j'aimerais que nous en soyons tous pétris de cette pensée. Le Seigneur sait ce dont on a besoin. Est-ce que vous comprenez? Vous, si vous êtes entré dans le royaume, si vous avez pris le baptême, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, comme Rédempteur, si vous l'avez accepté comme votre maître, vous êtes rentré dans le royaume des cieux, vous êtes son fils, vous êtes sa fille, vous êtes entré à l'école du service. Et il y a toute une préparation qui fait que, oui ou non, on va terminer avec ça, je pourrais ou je ne pourrais pas être ce vase utile entre les mains du Seigneur. Jésus, il sait. Il sait, les jeunes qui venaient de vous convertir. Vous n'êtes pas encore mariés, vous vous inquiétez avec qui je vais me marier. Seigneur, envoie-moi une petite Albertine, s'il te plaît. Moi, je le comprends. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur, il sait la femme qu'il vous faut. Les filles, le Seigneur, il sait le garçon. Vous croyez que le Seigneur, il ne sait pas? Il est tout puissant. Et si nous arrêtions de nous replier, parce qu'autant, comme disait notre frère, il faut faire un examen sur soi, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même, de suite, il faut se tourner vers le Seigneur. De suite. L'introspection morbide, ça, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas biblique. La pensée de Dieu, c'est d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu sait? Qu'est-ce que Dieu veut? Il sait, le Seigneur, dans quel domaine il doit intervenir. Vous le croyez vraiment, mes frères et sœurs? Vous qui ne supportez pas peut-être en ce moment, mes enfants, il y a un conflit avec mes enfants. Mais vous croyez pas que Dieu est capable d'incliner le cœur de vos enfants? Vous croyez pas que Dieu a été capable de tourner le cœur d'un certain Ésaü qui venait quand même accompagné d'une certaine quantité de personnes pour tuer son frère? Comment c'est bizarre? Dans la nuit, le cœur de son frère a été tourné. Jacob, il luttait pas contre Ésaü. Il croyait lutter contre Ésaü. Jacob, il luttait contre Dieu. Et si nous comprenions ces choses, parce qu'il faut pas combattre contre la chair et le sang, il faut pas combattre, il faut combattre à genoux. En tous les cas, spirituellement. Jésus sait. Nous, on chante des cantiques. Change-moi, Seigneur. On le chante souvent. C'est un cantique qui a une mélodie merveilleuse. La mélodie est belle. Et peut-être que la mélodie nous fait perdre de vue la profondeur des paroles. Ça arrive souvent, ça, qu'il y a des mélodies. Elles sont tellement belles, joyeuses, qu'elles nous font perdre de vue les paroles. Vous me suivez? Brise-moi, façonne-moi. On le chantera tout à l'heure, oui ou non? Est-ce que... Non, mais sérieusement, c'est quand même des paroles archi-fortes, oui ou non? Moi, je l'ai fait deux fois, ça brise à moi. Deux fois. La dernière fois, j'ai eu un AVC. Oui. Ouais, mais ça a été la plus grande bénédiction de ma vie. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Satan voulait... Écoutez bien. Par cette épreuve, Satan voulait détruire la foi de Pierre. D'accord? Vous le voyez comme moi. C'est biblique. Mais le Seigneur, bien sûr, permettait cette preuve en ayant un but différent. Ça sent que le Seigneur contrôle nos épreuves. Vous le croyez ça aussi, que Dieu contrôle nos épreuves? Notre foi sera toujours ébranlée. On pourrait prendre des textes. Souvent, on le voit dans Hébreux, pour ceux qui prennent des notes 12, 26 à 28, il est dit que Dieu ébranlera les cieux et la terre. Il le dit, une fois encore, j'ébranlerai les cieux et la terre. Dieu est capable d'ébranler par plein de situations, dans toute situation, pour voir eh bien, comment sont nos racines. Dans Actes 15, 24, ne le cherchez pas, quelques hommes, c'est Paul qui parle, Pierre, ont ébranlé vos âmes. Vous savez, dans l'Église, il peut y avoir des faux docteurs, il y a des gens qui croient n'importe quoi. Quelques hommes ont ébranlé vos âmes. Regardez bien, 1 Thessaloniciens 3, 2 à 3, ne le cherchez pas, notez-le, vous le lirez chez vous. Nous envoyâmes Timothée, je saute des paroles, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions, car vous savez nous-mêmes que nous sommes destinés à cela. Dieu nous a destinés à traverser des afflictions, des épreuves, et Paul dit, je vous envoie Timothée, afin que vous ne soyez pas ébranlés. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. Est-ce que vous réalisez l'importance de l'Église? Vous le réalisez? On a besoin de l'Église. Quand on est, comme je l'ai dit l'autre jour, quand on est attaché à la tête, on est attaché au corps. Si vous n'avez pas besoin de l'Église, mais demandez au Seigneur de l'aide, demandez-lui. Moi, je ne vais pas vous, accabler, mais demandez-lui. Demandez-lui où elle est ma place dans le corps. Parce que quand même, on est bien quand on a le corps de Christ. Oui ou non? On a besoin du corps. C'est un autre sujet. L'or est purifié par le feu. Nous sommes purifiés par l'épreuve. Il faut l'accepter, bien sûr. En nous, il y a des choses. Est-ce qu'il y a en nous des choses qui ont besoin d'être changées? Quelle est la chose, ne le dites pas haute voix, ça ne regarde personne, mais quelle est la chose dans votre vie qui a besoin d'être changée? Peut-être vous le dites, tiens, il y a un côté charnel à moi, je suis spirituel, mais en même temps, souvent, je redeviens charnel. Vous voyez, il y a des domaines, on peut en parler avec des gens qu'on aime, vous voyez. Moi, ça ne me gênerait pas de dire, voilà, priez pour moi, j'ai besoin de si, davantage, etc., etc. L'orgueil, l'égoïsme, j'ai parlé de la jalousie, mais il y a plein de choses. Et le Seigneur, il va s'en occuper. C'est, bon, le mieux, le top niveau dans l'Église, ça serait qu'on obéisse quand Dieu nous parle, à la voix, voyez. Comme quand un berger dit à sa brebis, reste sur le chemin. Moi, j'avais une grand-mère qui était bergère, et j'étais impressionné, elle était presque aveugle. Et elle voyait pourtant les brebis qui s'échappaient. Elle disait au chien, elle parlait au chien, et le chien, il allait chercher la brebis. C'était magnifique. Mais le problème, c'est que si Dieu nous compare à des brebis, nous avons quand même quelques différences. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de la volonté? Bon. Et quand on commence à s'opposer, alors je voudrais conclure quand même d'une manière intelligente. Pierre s'est opposé aux paroles. Alors, mais moi, je le vois dans l'Église. Des gens, des fois, viennent me voir et me disent « Monsieur Gauche, je ne suis pas d'accord avec votre prédication. » J'ai dit « Mais si j'ai dit quelque chose d'humain, de personnel, d'accord. Mais si c'est la parole, les gens s'opposent à Dieu. » Et Pierre, voyez, avec son caractère, il s'est opposé aux paroles de Jésus. « Non, Jésus, je suis prêt à aller avec les autres. Mais moi, je suis prêt avec toi à aller en prison et à la mort. » Et est-ce qu'il mentait? Mais non, il ne mentait pas. C'était pas un peu heureux. Quand dans le jardin de Gethsémané, vous savez, quand on a arrêté Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? De suite, il a pris son épée et il a coupé l'oreille. Il a voulu, je pense qu'il ne voulait pas couper l'oreille. Je pense qu'il visait plus au milieu. Mais il a coupé que l'oreille. Bon, mais Jésus a dû faire un miracle, là. On voit bien que il n'était pas peureux. Il n'a pas eu peur d'un de ses soldats, un gardien, des sacrificateurs. C'était pas un peureux. Donc, il y avait une force dans le cœur, dans les bras, dans le cœur de Pierre. Il y avait une force humaine. Mais ce n'est pas une force qui est liée à l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Il y a une force qui est liée à l'humilité. Et il y a une force qui peut être liée au caractère. Donc, quand cette affaire s'est passée, il y en a peut-être qui ont dit, Pierre, il ne prend pas le chemin de renier Jésus. L'épreuve n'avait pas commencé. Parce qu'il y a l'épreuve, ça a un commencement, une fin, mais ça commence. Vous savez ce que c'est une épreuve? C'est un commencement. Des fois, on peut les caler vraiment bien. Donc, dans la nuit qui suit, Jésus est là, arrêté. Et puis, Pierre, quand même, il a du courage. Il est là, il est avec eux, il est là. Et là, il fait froid. C'est pour vous dire combien Jésus a dû quand même... Parce qu'il a transpiré dans le jardin de Gethsémane alors qu'il faisait froid. Ça, c'est autre chose. Et Jésus, là, il est là. Puis, il y a une servante qui s'approche. Vous connaissez l'affaire, vous connaissez l'histoire. Mais tu fais partie de ce groupe? Non. Non. Alors, on va quand même le lire. J'aimerais qu'on le lise. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu réfléchir à la première fois. Non? Ben, on le sait. Quand on sait les choses, c'est facile. Ouais, c'est très facile quand on sait les choses, quand on les a lues 200 fois, de dire oui, mais quand même. Alors, regardez, on va prendre lequel? Luc 22. Alors, c'est dans Luc 22, verset 54. Regardez bien. C'est quand même intéressant parce que l'épreuve, elle commence là. Luc 22, 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait. Bon, il y a déjà une première indication. Mais enfin, bon, je pense que là, c'est pas forcément méchant. Il suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante, vous voyez là, ce n'est pas le gardien des sacrificateurs qui est armé, là c'est une simple femme, toute simple. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui des regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Est-ce que là, alors là, ne soyons pas sévères, hein. Est-ce que là, il aurait pu dire, « Oula, aïe. » Peu après, bon, ça, juste peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Regardez verset 59. Environ, qu'est-ce qu'il y a dans votre Bible ? Une heure plus tard. Donc, il avait le temps de dire, « Mais t'as quand même, ça fait deux fois. » Est-ce qu'il a réalisé ? Parce que, vous savez, des fois, on ne réalise même pas ce qu'on dit. Est-ce que vous le savez que des fois, on ne réalise même pas ce qu'on dit ? Ce qu'on fait, nos propos, on ne se rend même pas compte qu'on murmure, par exemple. Il y a des gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont vraiment à loin de Dieu. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et pourtant, ils prient, « Seigneur Jésus, je t'aime. » Mais le fruit, il y a le fruit. Le fruit, c'est le révélateur le plus excellent. Une heure après, une heure quand même, c'est quelque chose. Hier, je lisais, une heure, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le nouveau prédicateur chanta. Voilà. Eh oui. Il a été utilisé, le coq, à son insu. Oui ou non ? Ouais. Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Mais c'est merveilleux, ça. Moi, je vais faire une étude sur le coq. Sérieux ? Vous verrez. Vous comprendrez encore plus la souveraineté du Seigneur. Donc, cette servante, ça commence avec une servante, ça prouve que, vous voyez, ce n'est pas un homme, un grand gaillard, costaud, un soldat qui l'a ébranlé. Comme quoi, on ne sait pas ce qui va nous ébranler. Moi, il me semble que j'aurais été plus ébranlé par le soldat que par une servante. Vous me suivez ? Jésus a été ébranlé par la servante, pas par le soldat. Donc, ne jouons pas les costauds, faisons attention, il y a des petites choses qui paraissent insignifiantes, qui peuvent nous ébranler plus que des choses qui sont plus grosses. Faisons attention, moi je ne céderai pas à ça, moi la drogue, tu peux y aller, jamais je céderai. L'adultère, alors là, si tu peux y aller, je suis calé. Mes frères et sœurs, une chose est sûre, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ne jouons pas les costauds avec les tentations et les épreuves, que Dieu nous garde. Et demandons-lui chaque jour de nous garder. Ça, c'est la preuve qu'une petite chose peut nous faire tomber. Cette preuve, voilà, il y a des choses qui peuvent nous ébranler. Faites attention, faisons attention. Il y a des petites choses, vous savez, on dit, mais non, c'est pas grave, ça, tu vas pas en faire un flan pour un truc. Faites attention aux petites choses, faisons attention. Alors il est parti en pleurant. Vous avez vu cette merveilleuse bénédiction ? Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Juste au début du verset 61, il y a quand même un verset qui mérite d'être souligné. Le Seigneur l'a méprisé. Comment vous avez-vous ? Non, le Seigneur l'a ignoré. C'est ça ? Le Seigneur s'est retourné et l'a regardé. Quand je vous dis que ceux qui ne croient pas à l'amour de Dieu ne le connaissent pas. Il avait certainement... Là, ce que je veux dire, c'est un peu trivial, mais ça ne fait rien. Le Seigneur avait certainement autre chose à faire. Mes frères et sœurs, il s'est retourné et il a regardé. Et je suis sûr. Enfin, moi, je ne suis pas... Je vois pas tout. Mais je pense que le regard du Seigneur devait être un regard plein d'amour. Oui ou non ? Ou un regard de mépris. Je te l'avais bien dit. Ne riez pas. Ne riez pas parce que vous savez, dans une église, on a vite fait de mépriser les gens. Oui ou non, par rapport à des comportements qui ne nous plaisent pas. Je suis sûr que le regard du Seigneur était rempli d'amour. Et il est parti et il pleurait amèrement. Vous savez, quand on chantait tout à l'heure, tel que je suis, je pense que ce cantique, il y aurait allé bien ce jour-là. Assis certainement sur le bord de son lit, il a dû dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis grillé. Et puis vous savez, le diable, il l'a criblé. Il y a eu une agitation, l'agitation n'était pas là. Avec la servante, c'était... Nous, on le voit, on pourrait faire un petit film, vous voyez, super utile. Mais l'agitation intérieure, elle était certainement dans sa chambre quand il est rentré chez lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et le diable qui connaît la parole aussi, parce qu'on le sait, par la tentation de Jésus dans le désert, le diable a dû dire à Pierre, mais Pierre, mon pauvre, t'es grillé. T'es grillé. Bon pauvre. Parce que le diable, il sait nous parler, hein, avec notre vocabulaire. Mon pauvre, t'es grillé. Tu sais ce qu'il a dit, Jésus ? Tu te rappelles pas, il y a 6 mois ? Quand il a dit dans le sermon, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Je peux vous dire qu'il a dû le triturer avec ça. Je ne sais pas comment il a pleuré. Je ne sais pas s'il a dormi la nuit qui a suivi. En tous les cas, ses pleurs amers indiquent une vraie repentance. Il comprenait maintenant l'épreuve. Il comprenait les paroles de Dieu. Il n'était pas dans la contestation. Oui, mais. Faites attention à cette façon de dire. Oui, mais. Dieu a dit ça. Oui, mais. Dieu m'aime. Oui, mais. C'est mal parti. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Et Dieu ne se moque pas avec vos nerfs et votre santé et vos difficultés. Non, mais si vous pensez que Dieu joue avec vos nerfs, vous ne le connaissez pas. Le Seigneur, il est souverain. Il peut arrêter une épreuve quand il veut. Il peut la faire démarrer quand il veut. Il sait quand est-ce qu'un coq doit chanter. Il contrôle tout dans le ciel et sur la terre. Nous devrions lui faire entièrement confiance. Alors, juste terminer avec une comparaison. On va comparer Judas et Pierre. D'accord ? D'une certaine manière, Pierre et Judas se ressemblent beaucoup dans l'épreuve. Ils ont tous les deux rejeté Jésus. Oui ou non ? Donc, sous cet aspect-là, ils se ressemblent un peu. Et pourtant, quelle différence ? Quelle différence entre ces deux hommes ? Judas a aimé Jésus, puisqu'il l'a suivi partout. Pendant 3 ans et demi, il a voyagé. Quand Jésus a été persécuté, il est resté avec lui. Il a chassé les démons, il a fait les œuvres de Dieu. Quand il est dit que Jésus les a envoyés, les douze, pas 11, il les a envoyés. Enfin, si on prenait le temps, là, le temps nous manque. Mais Jésus a utilisé les 12 pour faire l'œuvre de Dieu. Il a fait des miracles, etc., etc., etc. Tous les deux ont regretté ce qu'ils ont fait. Mais Judas n'avait pas la même révélation. C'est ça mon message. Est-ce que vous me suivez ? Ils suivaient tous les deux Jésus. Ils le connaissaient très bien. Ils ont marché 3 ans et demi avec lui. Ils ont tout vu, tout entendu. Et pourtant, l'un a été béni et restauré, et l'autre s'est suicidé. Alors c'est vrai que ça nous amène au suicide des chrétiens, au suicide des serviteurs de Dieu. Il y a une femme qui m'a écrit il y a un an, pour me dire que son mari était pasteur et qu'il s'est suicidé. Pas dans notre mouvement, parce que les gens, ça a été complètement caché et tout. Alors moi, vous savez, moi je reçois tous les jours des mails, tous les jours. C'est un sujet sérieux ça, parce qu'on est en train en fin de compte de parler, voilà, il y a deux sortes de chrétiens, il y a des gens qui abandonnent, les disciples qui se retirent. Pourquoi Judas qui a vécu tout ce qu'il a vécu? Est-ce que Judas, après avoir jeté les pièces dans le temple, il dit mais j'ai fait une ânerie, c'est vrai qu'il fallait que ça arrive, etc. Est-ce que Judas aurait pu courir à Golgotha? Est-ce que Judas aurait pu courir à, comment on appelle ça, à toute vitesse? Et dire, Seigneur, je demande pardon. Est-ce que Dieu l'aurait pardonné? Est-ce que Jésus l'aurait pardonné? Mais bien sûr, si quelqu'un dit non, là, vous ne connaissez pas le Seigneur. Mais il n'avait pas la même révélation. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment que le Seigneur se révèle ou est-ce qu'on continue dans nos prières égocentriques? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, pourvois. Seigneur, donne-moi du boulot. Seigneur, cette révélation, elle ne vient pas comme ça. Seigneur, révèle-toi. Quand je lis ta parole, révèle-toi, je veux que tu te révèles. Je veux que tu te révèles. Il y a des chrétiens, vous avez vu, dès qu'il y a une épreuve, un conflit, une offense, c'est fini. Ils envoient tout balader. Mais Jésus l'a dit. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, qui sont ces chrétiens? Parce que quand même, c'est intéressant. Qui sont les gens comme Pierre? Qui sont les gens comme Judas? Qui sont les gens comme les vierges folles? Qui sont les gens comme les vierges sages? Qui sont ces disciples qui se retirent? Qui sont ces vainqueurs de l'Apocalypse qui restent attachés à Jésus jusqu'à la fin? Eh bien, la mauvaise catégorie, Jésus l'a dit, ce sont ceux qui entendent la parole. Attendez. Vous allez trop vite. Et la reçoivent avec joie. On pourrait se dire, bon là c'est gagné. C'est pas moi qui le parle, c'est Matthieu, je l'ai marqué Luc 8, Matthieu 13. Mais ils n'ont pas de racines. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, alors ça je l'ajoute, ils n'ont pas de révélation. Et dès que survient une tribulation, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il n'y a pas de révélation. Il y a eu la bénédiction, il y a eu la multiplication des pains. Je vous dis, Pierre et Judas ont vécu les mêmes expériences pendant près de 3 ans et demi. En même temps, c'est facile à comprendre. Parce que ce que je vous dis, bon, ça vous résume un petit peu l'épreuve que Dieu a permis dans la vie de Pierre. Ça nous permet de comprendre un peu mieux nos épreuves. Mais en même temps, c'est facile à comprendre ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un qui ne fait pas confiance à Dieu, s'il ne lui a pas donné sa vie? Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous le suivez de loin, ou si vous lui avez donné votre vie, et là, je ne sais pas si vous êtes même capable de répondre, et ce n'est pas une question piège, mais ce matin, qu'est-ce que vous répondriez au Seigneur si vous disiez, mais tu me suis de loin, Oui, tu me suis. Parce que j'ai multiplié les pains, parce que si, parce que là. Ou est-ce que tu es attaché à moi? C'est une question quand même qu'il faudrait répondre. Vous savez, le caractère de Dieu, il est merveilleux. Vous n'avez pas envie de le connaître davantage, le Seigneur? Moi, je vous assure, moi, c'est ma vie, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de bien prêcher. Je sais que je prends beaucoup de temps pour préparer mes prédications. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître Jésus. Parce qu'il est le même. Il libère. Il guérit. Il fait les choses en son temps. Le coq n'aura pas chanté deux fois que tu m'auras renié trois fois. Vous ne croyez pas que Dieu contrôle même le chant des poulets? Vous le croyez ou non? Ce matin, j'entendais les corbeaux chanter, je ne pensais pas à ça. Mais... Et je disais merci pour lui, pour Louis. Est-ce que c'est une grâce d'entendre? Ouais. Est-ce qu'on pourrait terminer en chantant ce cantique en son temps? En son temps. C'est le temps de Dieu peut-être pour toi, mon frère. Vous savez, on n'est pas tous au même endroit. On n'est pas tous sur la même marche de l'escalier. Ce n'est pas grave, ça. Mais en son temps... Est-ce que ce n'est pas le temps pour quelqu'un de dire, mais Seigneur, révèle-toi. Pardon, Seigneur, de t'avoir dit que bénis-moi. Oui, mais c'est sûr. Vous ne croyez pas que Dieu vous bénirait s'il se révélait? Non? C'est quoi le plus important, une bénédiction matérielle ou une révélation spirituelle? Quelqu'un, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un qui dit les deux. Mais c'est bien, vous avez bien répondu. Vous savez, les révélations, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant, il est tout puissant. Vous le croyez? Mais est-ce que vraiment vous le croyez? Et l'épreuve que vous traversez, vous devriez dire tout simplement, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Rendez grâce à Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit? Seigneur, tu ne peux pas te tromper. Cette épreuve, elle est là, elle dure depuis 3 ans, j'ai redoublé. Moi, j'ai redoublé plusieurs fois, je sais ce quoi je parle. Peut-être que vous avez redoublé 3 fois la même classe. Peut-être que ça fait 10 fois que vous l'avez redoublé, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Moi, je dis merci, Seigneur, pour sa patience. Vous savez, dans le monde, quand on redouble, au bout de la 3e fois, on vous éjecte. Et on vous dit, tu ne vaux plus rien. Mais le Seigneur, il ne fait pas comme ça. Je me souviens quand on était à l'école, justement en parlant d'école. Vous savez, quand on allait jouer au foot, et on choisissait, on plouffait. Allez, on prend le meilleur. Allez, dans mon équipe, c'est Norbert. Dans notre équipe, c'est Jenson. Et puis après, le dernier reste là, vous savez. Ça n'existe pas, ça, dans l'Église. Il n'y a pas de dernier. Il y a une grâce pour tous. Il est tout puissant. Et si vous le connaissez, si nous le connaissions, nous ne nous inquiéterions pas beaucoup. Et dans l'épreuve, nous dirions, c'est un moyen d'apprendre à te connaître. Pierre, il a été brisé, oui. Il a été pardonné. C'est dommage que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Parce qu'il faut croire au pardon aussi. Vous y croyez au pardon? Pierre, il y a cru. Vous savez ce qu'il a dit quand il a prêché plus tard? Moi, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Quand il prêche devant les... En plus, il y a les 10 derrière. Vous avez renié le saint et le juste. Et il le dit 2 fois en plus, pour que tout le monde comprenne bien. Je suis sûr que les apôtres, ils ont dû dire, non mais franchement, quel drôle de bonhomme. Mais quand tu es pardonné, tu le sais. Quand tu es pardonné, tu peux être réhabilité. Et 50 jours après, qui c'est qui prêchait à la Pentecôte? Qui c'est qui prêchait? L'apôtre Pierre. Il est grand le Seigneur, vous savez mes frères et sœurs. Il brise et il sait le faire, même s'il faut qu'il utilise un coq, un poulet, un âne, n'importe. Mais quand il brise, il nous amène au pardon. Et quand on est pardonné, il nous réhabilite.